La parole de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 13 à 17, lisons à tour de rôle. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'est opposé en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Prions pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Prions pour que nous puissions recevoir la parole par la foi pour pouvoir y obéir. Prions pour l'évêque d'honneur pour qu'il puisse avoir la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Dieu le Père, merci de nous avoir commandé le jour saint. Nous y avons obéi, que nous soyons remplis encore plus de ta grâce. Je prie au nom de Jésus. Nous sommes des baptistes. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Nous sommes des baptistes. Dieu est le Père unique. Si nous voulons devenir ses enfants, il faut absolument nous faire baptiser. Le baptême n'est pas un rite, mais la réalité. Non une fabrication humaine, mais la volonté de Dieu, son commandement. Même si le Nazaréen, bien que né du Saint-Esprit, fut de la racine de David, il accomplit la justice par le baptême et fut ainsi reconnu comme fils de Dieu. Puisque Jésus-Christ prescrivit d'être baptisé par l'eau et le Saint-Esprit, celui qui se fait baptiser est enfin appelé enfant de Dieu, et ce que le Saint-Esprit scelle et garantit. Notre foi est une situation réelle qui doit être vécue et que le Saint-Esprit doit garantir. Il faut enterrer le vieil homme par l'eau et être régénéré un homme nouveau par le Saint-Esprit, c'est cela le vrai baptiste. Ce n'est pas le corps qui a changé après le baptême, mais l'identité qui est devenue sainte. Le baptême sans la repentance, c'est seulement un rite qui ne peut ni intéresser Dieu ni apporter le pardon des péchés. Celui qui s'est fait baptiser, c'est l'homme de Jésus-Christ. Il appelle enfin Dieu Père. Les événements de l'Église du Christ sont des expériences, non des rites, ayant une foi spirituelle. Dieu est le Père unique. Avant que nous croyions en Jésus, nous avons servi notre Père corporel et nous avons servi nos descendants corporels, mais ils sont tous morts. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont morts. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu dépendent des morts. C'est pourquoi les incroyants disent souvent que souvent nos descendants nous béniront. Mais leurs descendants ne faisaient pas grand-chose lorsqu'ils étaient en vie. Alors, ils sont déjà morts. Comment ils pourront faire grand-chose alors? Et c'est ainsi que les incroyants sont abandonné par Dieu. Mais notre Dieu est vivant, il est éternel. Il a créé toutes choses. C'est lui qui nous donne la nature, c'est lui qui gère le climat. Et alors, tout fonctionne sous son emprise. C'est lui qui nous permet de récolter, et c'est lui qui a créé, et c'est lui qui fait fonctionner toutes choses créées par lui. Il est vivant. C'est pourquoi il ne faut pas que nous laissons emporter par notre destin, et il ne faut pas que nous cherchions à être consolés par nos ancêtres. Il faut que nous dépendions de Dieu vivant et en tant que ses enfants, il faut que nous soyons élevés par lui et il faut que nous soyons capables d'hériter de la gloire céleste. Et faisons la comparaison entre ce qui dépend des morts et ce qui dépend de Dieu vivant. En croyant en Jésus, nous ne sommes plus descendants des morts. Nous sommes hommes de Dieu vivant. Nous sommes donc ses enfants. Et ce n'est pas une doctrine que... Il ne faut pas une conception. Si vous considérez cela comme une conception ou comme une doctrine, votre connaissance ne sert à rien. Il faut que vous ayez une foi comme la mienne. Croyez. Croyez. Et Dieu ne dépend pas des morts. Moi, je dépends de Dieu qui est vivant. Je dépends donc du vivant et je suis très fier d'être enfant de Dieu vivant. Et je dépends vraiment et j'ai reçu sa puissance et j'ai reçu sa grâce et c'est ce dont je témoigne. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose de vivant. Ceux qui possèdent la foi sont vivants, mais ceux qui ne possèdent pas la foi ne sont pas vivants. Si nous croyons en Jésus-Christ, il ne suffit pas d'entrer dans le bâtiment de l'Église. Il ne suffit pas d'entrer dans le bâtiment de l'Église pour écouter le sermon. Il faut que nous obéissions au sermon que nous écoutons. Qui est le diable? Le diable, c'est celui qui agit sur les rébellions en détenant le pouvoir de la mort. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Donc, ceux qui appartiennent au monde suivent le diable, qui est le détenteur de l'autorité de la mort. Nous avons aussi comme eux, mais maintenant, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes sortis de cette situation ténébreuse. Pourquoi sommes fiers de croire en Jésus? Il est vraiment correct d'être fier, d'être homme de Jésus-Christ. Il ne faut pas donc que nous méprisions cette fierté. Il faut que nous soyons toujours fiers d'être enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas fiers de cela, nous ne pouvons pas faire transmettre nos prières à Dieu. Et nous nous contentons de mendier devant Dieu. Il faut que nous aimions en temps ordinaire. Nous devons dépendre de lui en temps ordinaire. Et il faut que nous soyons aimés par lui en temps ordinaire. À ce moment-là, Dieu agira en cas de besoin. Et par exemple, il y a eu un fils prodigue qui n'a aucun rapport avec son père parce qu'il a quitté, il a dépensé tout ce qu'il possédait. Il faut qu'il retourne à son père pour être aimé de nouveau par ce dernier en tant que fils. Même si vous êtes entré dans le bâtiment de l'Église, et si vous êtes enfant prodigue en quittant Dieu le Père, vous ne pouvez pas attirer son attention. Et vous vivez dans une grande solitude, n'est-ce pas? Nous sommes devant Dieu le Père. Lorsque nous allons au-devant de lui, il faut que nous soyons bien clairs là-dessus. Et il faut que nous avons commencé selon la parole de Dieu. Donc, avant que nous soyons baptisés, nous sommes repentis. Lors de la repentance, lorsque nous avons vécu dans ce monde, les enfants qui n'ont pas commis beaucoup de fautes sont différents de nous, qui sont des adultes. Alors, nous avons commis donc beaucoup de péchés, beaucoup de fautes. Et à ce moment-là, comment nous devons nous repentir? Il faut énumérer nos fautes, nos péchés? Non. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est retourner à Dieu le Père. Par exemple, si nous tournons notre tête, nous pouvons voir un nouveau monde. Et si nous tournons notre tête, la tête, nous pouvons voir la lumière, par exemple. C'est ainsi que nous soyons complètement changés en retournant à Dieu. C'est cela la repentance. Lors de la repentance, nous disons à Dieu, « Je suis pécheur. » Et cela signifie que nous ne connaissions pas Dieu. Qu'est-ce que le péché? C'est de ne pas connaître Dieu. Bien sûr, il y a beaucoup de péchés qui sont commis en pensée, en chair. Et nous avons commis beaucoup de fautes aussi. Mais il est impossible d'énumérer toutes ces fautes et tous ces péchés. Et par exemple, supposons qu'il y ait un arbre qui a beaucoup de branches, beaucoup de feuilles. Il est impossible de cueillir toutes les feuilles de cet arbre parce que cet arbre continue de pousser des feuilles, donner des feuilles, des branches. Donc, pour complètement cueillir de ces feuilles de l'arbre, il faut déraciner cet arbre. C'est cela la réponse. Donc, de la même manière, lors de l'abondance, nous disons à Dieu, je suis pécheur, je n'ai aucun mérite, je n'ai pas le droit d'être béni, je n'ai pas le droit d'être aimé de Dieu, je n'ai pas le droit d'entrer dans la vie éternelle, je n'ai pas le droit d'entrer dans le royaume des cieux, je n'ai pas la justice. C'est cela l'abondance. Je n'ai pas la justice. Seigneur, je n'ai aucun mérite. Est-ce qu'il est possible d'être sauvé par notre propre mérite? Est-ce qu'il est possible d'être aimé par Dieu par notre propre mérite? La repentance, c'est confesser qu'on n'a aucun mérite de notre part. La repentance, c'est confesser que nous n'avons pas de justice de notre part. On n'a pas de justice qui nous permet d'être aimé par Dieu le Père. C'est cela la repentance. On n'a pas de justice, on n'a pas de mérite à 100%. Et donc, il faut qu'on s'en repente et ensuite, il faut se faire baptiser. Par exemple, nous sommes donc hommes de convoitise. Nous avons la chair. Nous avons les mains, les pieds qui sont visibles, mais je ne parle pas maintenant de la chair de l'homme. Nous appartenions aux morts, c'est-à-dire nous appartenions à la chair. On était donc hommes de la convoitise, parce que nos esprits étaient morts, on était donc homme de désir charnel. On a enterré ce vieil homme. Si un homme est mort, il est enterré. De la même manière, lors du baptême, on est enterré dans l'eau. L'eau et le sol ont la même qualité. Vous connaissez le trou noir, appelé en anglais « black hole ». La Terre sera absorbée à un moment donné par ce trou noir. Et alors la Terre va se résumer un petit de choses. La Terre est grande, mais comme l'eau alors, nous étions morts en tant que pécheurs. Hein? Dans le passé, nos esprits étaient morts. Et alors, nous enterrons notre vieil homme qui appartenait à la convoitise humaine. Et au nom de Jésus-Christ, on s'enterre. C'est pas lors du baptême. Et lorsque nous remontons de l'eau après le baptême, par le Saint-Esprit, s'unit à Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on entre dans l'eau, on enterre notre vieil homme qui appartenait au désir charnel. Et lorsque nous remontons de l'eau, le fait par le Saint-Esprit et ensuite on s'unit à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 6, verset 1, celui qui a participé au Saint-Esprit. Alors, c'est ainsi qu'on participe au Saint-Esprit. Donc, à partir de ce moment-là, on agit par le Saint-Esprit. Donc, on devient ainsi homme de Jésus-Christ. Donc, il faut que nous connaissions la raison pour laquelle on se fait baptiser. On se fait baptiser parce qu'on est pécheur, parce que notre vieil homme était mort. Il faut que donc nous enterrions notre vieil homme. Et lorsque nous remontons de l'eau lors du baptême, on participe au Saint-Esprit et on s'unit avec Jésus-Christ en devenant homme de Jésus-Christ. Donc, le baptême, qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est? C'est le changement de notre statut. Ce n'est pas le changement de notre chair. Certains disent, alors j'ai été baptisé, mais pourquoi j'ai toujours le même caractère qu'avant? Même si on se fait baptiser, on ne peut pas changer notre caractère. On a toujours le même caractère. Quelqu'un dit, et chaque fois qu'il voit son mari, il a manifesté son mécontentement et il a haï son mari. Pourquoi? Parce que même si elle s'est fait baptiser, son caractère n'a pas été changé, mais son statut a été changé. Donc, comme elle possède toujours le même caractère, et elle haït toujours son mari même après le baptême, mais son statut a été changé. Par exemple, il y a deux personnes qui sont dans le même bus, mais l'une est un chrétien et l'autre est un incroyant aux yeux de Dieu, parce que le statut est différent. Et comme les blés qui croissent et nous commençons à changer après le baptême, mais il faut que nous abandonnions notre chair un jour parce que la chair doit retourner au sol et la chair ne peut pas hériter du royaume des cieux. Alors le baptême, c'est le changement de notre statut. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le baptême n'est pas un rite qui a été inventé par les hommes. On parle beaucoup de la spiritualité, mais même après le baptême, on maintient notre relation avec notre entourage. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau, même après le baptême. Le baptême, c'est un ordre de Dieu. Dieu a dit, ma parole est esprit et il faut que nous obéissions à sa parole en se faisant baptiser. Donc, le baptême, c'est l'ordre de Dieu. Jésus-Christ aussi, il était descendant de David. Mais lorsqu'il a fait le travail de Dieu, lorsqu'il a commencé les œuvres de Dieu, il s'est fait d'abord baptiser. Il était le Fils de Dieu qui était né par le Saint-Esprit. Il était sans péché. Mais son statut en tant que fils de David a été toujours maintenu. Avant le baptême, il était fils de David, mais après le baptême, il n'était plus fils de David, mais il est devenu le Seigneur de David parce qu'il était le fils de Dieu. Alors les gens ont été très surpris par cela. Comment David pouvait dire « Mon Seigneur » et Jésus a dit aux gens qui posaient des interrogations sur son statut. Donc, Jésus appartenait à David, mais après le baptême, il est devenu fils de Dieu. Son nouveau statut a été officiellement reconnu lors du baptême. C'est pourquoi Dieu le Père lui a dit, lorsqu'il remontait des eaux, « C'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. » C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Est-ce que vous le reconnaissez ou bien est-ce que vous le méprisez? C'est votre choix. C'est par votre attitude que vous pouvez manifester votre choix. Est-ce que vous avez été baptisé parce que vous voulez obéir au commandement de Dieu, ou bien est-ce que vous vouliez tout simplement participer à un rite en se faisant baptiser? Même le Fils de Dieu s'est fait baptiser. C'était inévitable parce qu'il était venu dans ce monde en tant qu'être humain. Alors, son statut a été changé lors du baptême. Il faut que son statut soit changé par le baptême. Alors, nous avons changé notre statut par le baptême. Donc, il faut que nous vivions en étant dignes d'être homme du baptême, donc d'être baptiste. Alors, quel était le changement qui est survenu après le baptême? En fait, nous avons d'abord participé au Saint-Esprit par le baptême, et ensuite nous avons goûté à la puissance du monde à venir. Hébreux chapitre 1, verset 6. Lorsque nous sommes remontés des eaux lors du baptême, nous participons à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est une expérience historique. Et en fait, entrer dans l'eau et remonter, c'est simple. De la même manière, nous serons ressuscités à un clin d'œil d'une manière très pure et simple. Ce sera un changement brusque. Ce changement ne dure pas longtemps, hein. Donc, au dernier jour, notre corps sera transformé, nos âmes seront transformées en corps, un clin d'œil, et nos âmes ainsi transformées pourront participer à la résurrection, et nous avons déjà goûté à cette puissance du monde à venir par le baptême. C'est ainsi que nous sommes entrés dans la profondeur du monde spirituel. Donc, du point de vue du monde, nous avons déjà dépassé le niveau élémentaire. En 1958, j'ai reçu une formation spirituelle. Moi, je ne suis pas entré dans le service militaire, mais alors pendant cette formation, en fait, il fallait qu'on se coupe d'abord les cheveux pour être uniformisé. Moi, je n'ai pas coupé mes cheveux parce que j'ai passé l'examen médical un peu plus tard. Par le passé, nous avons utilisé seulement les ciseaux pour couper les cheveux. Et les gens pleuraient lorsque ils se coupaient les cheveux parce que. Alors, c'était pas joli la manière de couper les cheveux. Alors, j'ai beaucoup souffert lorsque on m'a coupé les cheveux. Alors, j'ai beaucoup souffert lorsque j'ai coupé mes cheveux. Alors, j'avais l'impression que je suis entré dans le service militaire lorsque on m'a coupé les cheveux. C'était intéressant de participer à cette formation parce que on a expérimenté le changement de notre statut en se faire couper les cheveux. Et alors, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est comment c'est entrer notre vieil homme et obtenir un nouveau statut qui nous permet de participer à la résurrection de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on peut goûter à la puissance du monde à venir. Il faut ainsi que nous entrions dans la profondeur du monde spirituel. Mais même si on s'est fait baptiser, on méprise le changement de notre statut. Alors, on espère le changement de notre caractère et on espère que nous sortons complètement de notre désir charnel et par le baptême. Mais en effet, il est impossible de sortir ainsi de la convoitise humaine, même si on se fait baptiser, parce que le baptême ne nous permet pas un changement physique. Et alors, le baptême nous permet un changement spirituel qui nous permet d'appeler Dieu Père. Alors, nous sommes devenus enfants de Dieu lors du baptême et nous l'appelons Père. Seuls les chrétiens peuvent l'appeler Père. Mais certains se repentent et en se prétendant être humbles, mais ils hésitent à se faire baptiser en disant je ne suis pas encore prêt à me faire baptiser. Mais là, c'est une arrogance devant Dieu, puisque on n'a aucun espoir, puisqu'on est dans le désespoir total. On doit se repentir et on doit se faire baptiser. La justice humaine est inutile. La justice humaine nous permet d'être félicités dans ce monde, mais on ne peut rien obtenir de Dieu avec la justice humaine. On ne peut pas être béni avec la justice humaine. On ne peut rien faire avec ce genre de justice. Mais les gens disent « Je manque de beaucoup de choses, je ne suis pas prêt à me faire baptiser, je dois accumuler beaucoup de vertus pour me faire baptiser, je dois être plus perfectionné. » Mais alors, c'est une mauvaise réaction devant Dieu. Quelle est la différence entre les catholiques et les protestants? Et en fait, les catholiques, eux, en fait, ils reçoivent une formation pendant un an et ils reçoivent le baptême par aspersion. Alors, pour pouvoir recevoir le baptême par aspersion, il faut 12 ans. Mais ce n'est pas biblique. Il faut que nous confessions à Dieu, je n'ai aucun mérite devant toi et alors je dépendrai de la justice de Dieu, je n'ai aucun mérite, je n'ai aucune justice de ma part et je dépends tout simplement de la justice de Dieu. Et en disant cela, on doit se faire baptiser. Il faut donc qu'on se fasse baptiser immédiatement, comme la famille de Corneille. Lorsque la femme de Corneille a reçu la parole de Dieu, elle s'est fait baptiser immédiatement. Et l'église d'Éphèse aussi s'est fait baptiser immédiatement après avoir reçu la parole de Dieu. Même si on vient à l'église, on n'est pas encore un vrai chrétien. Qu'est-ce que c'est se faire baptiser? C'est une expérience spirituelle historique qui est vraiment importante. Et on a ainsi participé au Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, on peut écouter la parole, la bonne parole de Dieu. Mais le statut qu'on avait avant le baptême appartenait au monde, mais on a obtenu un statut saint après le baptême. Donc il faut qu'on soit fier d'être juste. Avec cette fierté, on doit rendre le culte, on doit prier. En se faisant baptiser, on reçoit la justification. Parce qu'on n'a pas de justice de notre part. Donc, il faut qu'on se remette de la justice de Dieu. Il faut qu'on se revête de la justice de Dieu. Il faut qu'on se revête de la justice de Jésus-Christ. Alors, en se revêtant de la justice de Jésus, on doit aller au-devant de Dieu. Cela ne signifie pas qu'on s'habille du corps de Jésus déchiré. Il faut qu'on dépende de la justice de Jésus-Christ. Même si on n'a pas de justice de notre part, il faut qu'on obtienne la justice venant des cieux, qui est la justice de Jésus-Christ. Enfant de Dieu signifie juste. Mais puisque votre vie n'est pas très exemplaire et vous hésitez à dire que vous êtes juste, Seigneur, merci de m'avoir justifié. Seigneur, merci de m'avoir justifié. Mais certains qui prétendent être humbles disent « Je suis pécheur, je suis pécheur ». En fait, Dieu ne nous a pas demandé d'aller au-devant de lui pour faire de nous pécheurs. Il nous a appelés pour faire de nous des justes. Il ne suffit pas de répondre à ma question, écoutez bien. Mais lorsque nous n'avons pas cru en Jésus, alors nous avons prétendu être justes, mais après notre conversion, nous agissons comme pécheurs, en disant trop souvent, je suis pécheur Seigneur, je suis pécheur Seigneur. Et puis, en fait, on dit tout le temps, Seigneur, Seigneur, alors je suis pécheur, je suis pécheur. Mais il faut que nous sortions de cette idée qui nous force à dire « je suis pécheur ». Alors l'idéologie ou l'idée est quelque chose de fixé, c'est difficile d'en sortir. Il est vraiment terrible d'avoir de mauvaises idées qui nous fait périr. Si nous ne sortons pas complètement de l'idée qui nous force à confesser que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas réussir. Il faut que nous confessions que nous n'avons aucune justice de notre part, et ensuite il faut que nous soyons revêtus de la justice de Jésus. L'homme de Jésus est un juste. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et alors Jésus-Christ a obéi à Dieu le Père. Alors là, nous avons obtenu sa justice. Donc tous ceux qui vont au-devant de Dieu doivent se revêtir de la justice de Jésus. Au niveau de ma conscience, j'ai beaucoup de fautes, alors il est difficile de dire que je suis juste. Mais il faut que nous soyons libérés de la loi, il faut que nous soyons affranchis de notre propre conscience. Alors, les Juifs qui possèdent la loi doivent être libérés de cette loi et les païens qui ont la conscience doivent être libérés de cette conscience. Il faut que nous recevions donc la grâce de Dieu pour pouvoir être libérés de notre conscience. Il ne faut pas que vous soyez opprimés par l'idée qui dit que vous êtes pécheur. Il faut que vous sortiez le plus vite possible de cette idée, sinon vous allez périr. Alors, si vous dites toujours « je suis pécheur », ce n'est pas l'humilité, mais c'est l'incrédulité. Vous dites « je suis heureux », alors, mais même si vous dites « je suis heureux », vous êtes toujours opprimé par l'idée qui dit que vous êtes pécheur. Jésus, qui a été reconnu en tant que fils de Dieu, a prié à Gethsémané. Alors, il a prié de toute sa force, mais il n'a jamais dit qu'il était pécheur. Il était humble devant Dieu le Père. Alors, Jésus a dit, « Je suis doux et humble. » Donc, il était très humble. Mais il n'a jamais dit à Dieu le Père, « Je suis pécheur. » Donc, si vous dites, « Je suis pécheur », ce n'est pas la confession de celui qui est humble. On peut pécher toujours. Alors voilà, on peut pécher, on peut commettre des péchés, mais on peut se repentir et on peut recevoir la grâce de Dieu et ensuite on peut progresser spirituellement après la repentance. Alors, quand Jésus nous a enseigné que nous avons été pécheurs, quand Jésus nous a dit que nous étions pécheurs, il est le Fils de Dieu et alors Dieu est notre Père. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être totalement libéré de votre idée selon laquelle vous êtes pécheur? Pourquoi vous ne pouvez pas être libéré de votre conscience? C'est pourquoi vous n'êtes pas heureux. La Bible dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous rendra libre. » Qu'est-ce que c'est la liberté? Et celui qui est heureux spirituellement est libre, mais celui dont l'âme n'est pas heureuse ne peut pas être libre. Celui qui n'est pas libre ne peut rien obtenir de Dieu. Alors ça fait déjà 61 ans que je mène la vie de la foi. Et pendant 61 ans, j'ai progressé sans cesse et jusqu'à aujourd'hui. Alors, 10 ans, comment, si beaucoup de temps se passe et tout ne peut que changer. Bien sûr, mon environnement, l'environnement qui m'entoure a changé pendant cette période, mais je n'ai jamais régressé, j'ai progressé spirituellement et alors, je connaissais la vérité et cette vérité m'a soutenue. Mais bien sûr, ma vie était difficile, turbulente, mais je n'ai jamais régressé au niveau spirituel. Dieu le Père n'est pas le Père du pécheur, il est le Père du juste. Répétez à voix haute. Dieu n'est pas le Père du pécheur, il est le Père du juste. Voilà, mon âme. Mon âme sort de l'idée qui dit que tu es pécheur. Et qui, il ne faut pas qu'on redevienne pécheur. Il faut qu'on aille au-devant de Dieu avec une liberté totale. Et si vous n'êtes pas changé, si votre statut n'est pas changé, vous ne pouvez pas aller au-devant de Dieu. Qui est le pécheur? Alors devant la miroir, et tout se révèle. Mais le pécheur, pour le pécheur, tout est noir, même devant la lumière. Donc il ne faut pas que vous fermez vos yeux. Et vous, les aveugles, alors un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, parce que tout le monde, les doux périssent, c'est ce que Jésus a dit. Soyez libre. Parce qu'on n'a pas de mérite dès le début, c'est pourquoi on se fait baptiser. Il faut qu'on sorte de notre passé où on n'avait pas de justice. Alors on s'est revêtu de la justice de Jésus-Christ. Donc il faut qu'on s'y attache. On s'attache à ce nouveau statut. Alors après le baptême, on reçoit la grâce et alors on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit les dons du Saint-Esprit, on parle en langue par exemple. Et les membres des autres églises, eux en fait, ils peuvent venir à l'église, à son arc, alors ils font beaucoup d'expériences spirituelles, alors ils s'en réjouissent. Et, mais quelle est la différence entre celui qui a commencé la vie spirituelle à l'église, à son arc, et les autres qui ont commencé la vie de la foi dans les autres églises? Il y a une grande différence entre les eaux profondes, les eaux superficielles. Alors, il y a quelqu'un qui a reçu la grâce et alors il s'en est réjoui, il s'en réjouit. Alors, lorsqu'on évangélise et on parle de notre expérience spirituelle, alors on a reçu la grâce, j'ai reçu la grâce de Dieu, alors j'ai été guéri de ma maladie, j'ai vu beaucoup de visions par exemple. Et c'est ainsi qu'on dit des témoignages. Lorsqu'on évangélise, c'est ainsi qu'on manifeste notre foi lors de l'évangélisation. Mais l'important, c'est manifester notre progrès. Et alors, si on ne progresse pas, on ne peut que parler des expériences du passé. Alors, donc, pour ne pas fatiguer les autres, on exagère les expériences du passé et on n'a pas écouté la voix de Dieu, mais on prétend avoir écouté la voix de Dieu et on se concentre sur les expériences. C'est pourquoi on s'attache au mysticisme. C'est pourquoi cette évangélisation est trop limitée. L'effet est limité. Mais celui qui a commencé la vie de la foi à l'Église, son arc parle de Dieu le Père lors de l'évangélisation. En fait, les autres ne peuvent pas parler de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'attachent trop aux expériences spirituelles. Mais nous, en fait, nous connaissons très bien le tableau de la volonté de Dieu. Donc, on peut commencer par parler de Dieu lors de ce que nous évangélisons. Donc, voilà, on a été élevé pendant longtemps et nos âmes ont cru et on a lu beaucoup de livres concernant le tableau de la volonté de Dieu et alors la racine, notre racine est très profonde. Donc, ceux qui ont mener la vie de la foi à l'Église, son art pendant longtemps, peuvent parler de Dieu lorsqu'ils évangélisent. Mais lorsqu'on ne connaît pas le tableau de la volonté de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu. Alors, et on s'attache au mysticisme. Il faut donc étudier Dieu et il faut qu'on comprenne bien. Le tableau de la volonté de Dieu. Il faut qu'on donc soit fier d'être devenu baptiste. Prenez le point, répétez, je suis baptiste. Je suis baptiste. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, baptisez-vous immédiatement. Il ne faut pas hésiter à se faire baptiser. Parce que lorsqu'on se fait baptiser, on peut goûter plus facilement à la bonne parole de Dieu. Veuillez vous lever. Alors, j'ai été justifié par Dieu. Ce n'est pas parce que je suis né en tant que juste que je vis en tant que juste. Ce n'est pas parce que j'ai fait les œuvres justes que je suis juste. C'est Jésus-Christ qui m'a justifié. Jésus-Christ a souffert sur la croix à ma place. C'est lui qui a été puni à ma place. Donc, ce n'est pas la peine que vous soyez puni de nouveau. Ce n'est pas la peine de le faire. Alors maintenant, il faut que nous suivions le Christ. Mon âme reçoit la justification. Mon âme obtient la justification. Mon âme obtient la justification. Mon âme sort de l'idée. Mon âme sort de l'idée qui dit que tu es pécheresse. Il faut que les membres de l'Église s'en arquent. Et alors, qui sont retournés à Dieu, se revêtent de Jésus. Et il faut que vous aimiez plus Dieu. Si vous avez péché, aimez-le encore plus. Si vous pouvez aimer Dieu, vous pouvez aimer vos prochains. Même si vous aimez vos prochains, mais si vous n'aimez pas Dieu, alors c'est un acte humain. Alors même si on brûle notre corps pour un autre, si on n'a pas d'amour, ça ne sert de rien. Donc, il faut que nous aimions Dieu et à ce moment-là, on peut aimer nos prochains. Jésus m'a justifié. Il est le Seigneur et Sauveur qui m'a justifié. Lors de l'avènement de Jésus-Christ, les pécheurs qui n'ont pas été sauvés vont se tenir devant le juge, mais nous ne serons pas jugés. Et ceux qui croient en Jésus ne seront pas jugés. Jean 3e chapitre. Alors on ne se tiendra pas donc devant le juge parce qu'on n'est pas pécheur. Dieu nous a justifiés, il nous a sauvés. Alors, on se tiendra devant le Sauveur, non pas devant le juge. Alors, prenez le point. Alors, fermez vos yeux. Vous ne serez pas devant le juge. Si vous serez devant le juge, vous êtes pécheur. Mais nous, en fait, on se tiendra devant le Sauveur qui est Jésus-Christ. Alors, aimez-le. Et alors, aimez Jésus-Christ. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Sauveur. Répétez 30e fois. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur et Sauveur.
Yes, you never do. Yes, you never do.